On va lire une partie du verset du chapitre 5, verset 1er. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, nous, nos filles et nos fils, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. C'est Néhémie qui parle et qui dit, je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères. Et je rassemblai autour d'eux une grande foule et je leur dis, nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères les Juifs, vendus aux nations. Et vous, vous vendriez vous-même vos frères et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent et ne purent trouver quoi répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons et le centième de l'argent, du blé, du moût et de l'huile que nous avons exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous leur ferons comme tu as dit. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit « Amen ». On célébra l'Éternel, et le peuple tint parole, et nous aussi on dit « Amen », parce que c'est la parole du Seigneur. Vous avez remarqué, quand on travaille pour le royaume de Dieu, quand on construit ensemble pour que le règne de Dieu avance sur la terre, ça redonne de l'espoir. Et Néhémie, il est dans cette optique-là, avec ce travail de rebâtir la muraille, il y a de l'espoir qui renaît dans les cœurs. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le cœur de ce peuple qui est là, qui voit petit à petit la muraille qui est en train d'être rebâtie. Là, ils étaient déjà arrivés à plus de la moitié. À la moitié, à mi-hauteur, il y avait déjà la muraille qui était présente, mais le travail, l'accablement du travail, la charge qui pesait a fait remonter à la surface certaines choses qui étaient enfouies profondément, certaines situations qui étaient là, qui étaient peut-être installées depuis des années, mais le travail a fait en sorte que ça remonte à la surface. Et je peux vous dire, frères et sœurs, que quand on s'intéresse aux choses du royaume de Dieu, souvent, ce qui se passe quand on fait des progrès avec Dieu, c'est qu'il y a des choses mauvaises qui vont remonter à la surface. Notre cœur va être dévoilé par le Seigneur. Et il y a peut-être des péchés qui sont là, que l'on commet depuis des années, qui vont remonter à la surface. Et on peut se dire, dans ces moments-là, on peut se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Plus je m'approche du Seigneur, plus je vois que je suis pécheur. Et on peut avoir une tendance à vouloir reculer, à vouloir retourner en arrière. Mais si le Seigneur permet que les choses remontent à la surface, c'est pour une bonne raison. Vous savez laquelle? C'est pour que ça soit réglé. Aussi simple que ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors qu'ils sont là tous en train de travailler main dans la main, le chapitre 4 c'est merveilleux. Il y en a qui ont l'épée dans la main, l'outil dans l'autre. Ils sont tous ensemble côte à côte. Dès qu'il y a un ennemi qui vient, ils se réunissent au son de la trompette. Il y a tout cet aspect d'unité. Mais là, dans ce contexte-là, il y a quelque chose qui refroidit un peu les cœurs. Et Néhémie, lui, il est carrément irrité. Mais il n'est pas énervé. Il est touché dans son cœur, interpellé par cette situation. Néhémie, c'est pas un homme qui transige avec le péché. C'est pas un homme qui a fermé les yeux sur la situation. Je pense qu'il était tellement pris dans son organisation du travail qu'il n'avait pas fait attention à cette situation qui était là. Et Dieu permet qu'il y ait des personnes qui viennent et qui disent, qu'il y ait un cri qui monte du cœur et qui soit révélé. Et c'est bon, laissez-moi vous dire que c'est bon quand à un moment donné dans notre vie, il y a un cri du cœur qui sort parce que il y a une situation qui est intolérable et on a besoin que ça soit réglé. Le problème, il était là, c'est qu'il y avait une famine. Le peuple, le pays d'Israël, il n'était pas pas bien développé encore, parce que certains avaient pu rentrer de l'exil, mais c'était pas encore vraiment une facilité dans le peuple pour tout ce qui concernait les semences, tout ce qui concernait les champs qui étaient là. Il y avait pas assez de récolte pour tout le peuple qui était présent. Et il y avait aussi de grandes familles. Il y a des personnes qui avaient beaucoup d'enfants. Il y avait beaucoup de besoins qui étaient là, mais il y avait une grande pauvreté, la famine, la pauvreté. Il y en a qui étaient prêts à hypothéquer leur maison, à hypothéquer leurs biens pour pouvoir manger. Et il y en a qui étaient obligés, parce qu'ils avaient fait déjà tout ça, aussi pour payer le tribut au roi. Et les gouverneurs qui étaient avant Néhémie, ils faisaient payer un lourd fardeau, et ils n'hésitaient pas même à mettre dans leur poche certaines parties du tribut. En tout cas, Néhémie, c'était pas cette façon d'agir. Mais du coup, ça avait amené une pauvreté. Ça avait amené un grand besoin, et certains, ils avaient été obligés même de mettre leurs enfants, à l'époque c'était la coutume, leurs enfants en esclavage, les vendre à leurs frères, à leurs sœurs, juifs, plus riches, pour pouvoir avoir de quoi manger. Vous imaginez cette situation? C'est quelque chose qui nous, aujourd'hui, nous fait frémir, mais c'était des coutumes qui étaient là. Simplement, ceux qui étaient riches, ils avaient, au lieu d'user de miséricorde et de générosité, ils avaient profité de la situation. Oui, il y avait des personnes pauvres, mais ils ont dit, ben, on va leur prêter et on va leur demander un intérêt. Et vous savez, en soi, c'est pas mal, hein. C'est pas un péché qu'aujourd'hui, sinon, on fait plus de crédit, on fait plus tout ça, parce qu'ils demandent tous des intérêts. Et puis quand on calcule, c'est pas mal, hein. Les montants, ils sont élevés. Mais dans le contexte juif de l'époque, la loi demandait que les juifs, entre eux, ne se prêtent pas l'argent avec intérêt. Ils pouvaient prêter de l'argent, mais c'était 0% d'intérêt. C'est-à-dire, s'ils prêtaient 100 euros, il fallait qu'ils rendent 100 euros. Comprenez? Et les riches, eux, ils n'avaient pas agi de cette manière. Ils ont dit, nous, on va essayer de gagner un peu d'argent et on va prendre des terrains, on va prendre des champs et on va avoir de grandes possessions. Et eux, ils étaient dans l'abondance et leurs frères, ils étaient en train de mourir de faim. Et ils n'avaient plus de solution à leurs problèmes. Et pourtant, ils étaient quand même tout le monde à côté, les uns à côté des autres pour bâtir la muraille. Alors la situation était intolérable. Et puis même dans la parole de Dieu, dans la Torah même, dans le Deutéronome chapitre 15, il est dit, s'il y a quelques indigents d'entre tes frères, quelques pauvres, dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Donc la loi, elle était claire, hein. S'il y avait quelqu'un qui était pauvre, qui avait pas de quoi se nourrir, il fallait que celui qui avait l'abondance prenne soin de lui. Et les riches, qui de cette époque-là, ils étaient dans cette situation. Mais sans copier tous les détails de cette situation, j'ai vu, moi, dans certaines familles, au moment où un des parents était parti, qu'il y avait une question d'héritage, j'ai vu des frères et des sœurs, chrétiens pourtant, se déchirer au moment du partage de l'héritage. À cause de l'argent, à cause de ce désir qu'on s'enrichisse personnellement, là, on oublie un peu tous les principes chrétiens. Et laissez-moi vous dire que si on va dans cette dimension-là, eh bien, on va pas être béni par le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à avoir ce cœur ouvert par rapport à notre frère, notre sœur qui est dans la souffrance. Et s'il y a une question d'héritage, l'héritage, c'est pas un péché non plus, c'est biblique, hein. Mais que s'en soit fait de manière à honorer le Seigneur dans toutes les réactions que l'on peut avoir. Mais cela nous concerne aujourd'hui parce que ce passage souligne un aspect du cœur humain qui est l'égoïsme. Quand on dit « moi d'abord », mon intérêt d'abord. Les riches, ils étaient en train de chercher leur intérêt. Ça ne les dérangeait pas qu'il y en ait qui soient esclaves de leurs frères, qui soient en train de mourir de faim. Leur intérêt d'abord. Et malheureusement, on est dans une époque aujourd'hui où l'accent il est mis sur le « moi d'abord ». Et on a besoin de laisser le Seigneur modeler notre cœur et nous donner cet amour pour notre prochain. Il y a un texte de Paul qui est très précis, qui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » On y est. Pas besoin de faire un grand dessin. Mais voilà ce qu'il est dit. « Car les hommes seront égoïstes. » Première chose de la liste, il y a toute une liste, je ne vais pas faire le reste. Égoïstes. Moi en premier. Et si vous voulez être béni par le Seigneur, laissez-moi vous dire que c'est pas un slogan qu'il faut prendre en compte. Moi d'abord. Ça marche pas avec Dieu, ça. Quand on veut être béni par le Seigneur, il faut dire Seigneur, toi d'abord. Et mon prochain aussi, je veux le mettre en premier dans ma vie. Je veux l'aimer. Je veux l'aimer comme toi, tu me demandes de l'aimer. Il y avait l'histoire qui est racontée d'un agriculteur qui avait beaucoup d'ambition, qui était mécontent du rendement de ses récoltes. Alors il a entendu parler d'une nouvelle graine de maïs qui était très 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 performante. Alors il s'est dit, tiens, je vais aller acheter un échantillon et je vais mettre sur une partie de mon champ cette récolte et cette graine. Et la récolte au bout de quelques mois qu'il a pu récolter donc de cette partie de ce champ, elle a été incroyable. Il y avait une abondance et tous les voisins qui étaient là, ils en revenaient pas. Il avait une petite partie du champ avec cette nouvelle graine et pourtant il y avait une abondance de récolte. Alors tous les voisins sont venus lui demander un petit peu c'était quoi son filon, comment il avait eu cette graine et tout ça. Mais vous savez ce qu'il a fait le fermier ? Il a dit moi d'abord. Il a pensé qu'il avait peur de perdre l'avantage par rapport à ses collègues agriculteurs. Donc il a refusé de partager le secret. Et la deuxième année, il a mis tout son champ avec cette nouvelle graine. Mais le problème, c'est que ça n'a pas donné autant que les années d'avant. Alors bon, il s'est dit, c'est pas grave, il avait mis tout son champ, donc il en avait quand même. Mais la troisième année, il en avait quasiment plus. Quasiment plus rien de l'abondance de ce qu'il avait eu les années passées. Et puis, il s'est aperçu que tout simplement, son super maïs, qu'il voulait tant garder pour lui, en fait, il était pollinisé par tous les champs de maïs des voisins. Et le fait de pas partager, ça fait en sorte qu'il a perdu totalement la bonne semence et qu'il a récolté toutes les semences des voisins d'à côté. Et en ne pensant qu'à lui, en mettant son moi d'abord dans sa vie, il s'est puni lui-même. Et c'est un exemple à ne pas faire. Mais quand on pense à soi, dans les conséquences de ce que l'on peut vivre après, on va se rendre compte qu'on se punit soi-même. Parce qu'on n'est pas créé pour ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et je peux dire que dans cet aspect-là, dans cet aspect financier des choses, on a quand même cette générosité dans cette église de Moissac par rapport au tronc que l'on avait mis à disposition pour les Caraïbes, la tempête Irma qui a fait tant de dégâts. On a pu récolter 300 euros qu'on a donné à l'AEP et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait cela et parce que on peut pas rester insensible quand notre frère, notre sœur est touché par une crise, par une situation particulière, on veut participer, mais que ça soit vraiment le cas dans cette église, mais que ça soit le cas dans nos vies personnelles à chacun. Et le résultat qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une repentance publique. Ah oui, bien sûr, Néhémie, il a usé d'un procédé. À l'époque, ça se faisait comme ça. Je sais pas si c'était le meilleur moyen de faire pour aujourd'hui. Vous imaginez, si vous péchez, on vous met devant sur l'estrade et toute l'église est là rassemblée et on explique votre péché. C'est particulier. Mais c'était comme ça que ça se faisait tout simplement à l'époque. Il y a eu une repentance, il y a eu un pardon qui a été fait. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a eu une repentance publique. Il y a eu une célébration, on l'a fait tout à l'heure, célébrer le Seigneur. Mais il y a eu aussi le fruit de la repentance. Puisqu'à la fin, il est dit, le peuple tint parole. C'est pas tout de dire de belles paroles dans la présence de Dieu. C'est très bien de le faire. Et de célébrer le Seigneur pour le pardon qu'il nous accorde. Mais il faut tenir parole. Parce que la repentance, sans le fruit de la repentance, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, dans la parole que Néhémie dit, il dit que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole. Et vous savez que dans les engagements que l'on prend devant Dieu quand on est ensemble, même si c'est dans notre cœur, il faut les prendre au sérieux. On peut pas dire, Seigneur, je veux t'obéir, Seigneur, je veux faire ta volonté, Seigneur, je suis devant toi ce matin et je m'engage à ceci et cela. Et puis à la maison, on fait l'inverse. Parce que laissez-moi vous dire que c'est cette prière de bénédiction qu'on demande au Seigneur va se transformer en malédiction pour nous. Si on ne fait pas les choses qu'il faut à la maison. En tout cas, quand on met Dieu en avant dans notre vie, quand on laisse tomber ce problème d'égoïsme et qu'on dit, Seigneur, je veux faire ta volonté, alors le Seigneur, il nous bénit. Et Néhémie, si vous lisez les versets 14 à 19, on va pas le faire ce matin, mais Néhémie, il était dans l'exemplarité. C'était un modèle, c'était quelqu'un qui était généreux, il était gouverneur, mais il a jamais demandé de tribut à qui que ce soit. Il a toujours vécu sur ses biens propres. Pourtant, ceux d'avant, comme je le disais, ils avaient un peu abusé de la position, mais lui, Il était intègre et puis même il était généreux. Il avait à sa table des centaines de personnes qui étaient là, qu'il nourrissait tous les jours parce qu'il voulait que le travail avance et il voulait donner de ce qu'il avait reçu du Seigneur pour pouvoir bénir l'œuvre de Dieu. Mais ce que je voudrais insister ce matin, c'est cette réalité que parfois il y a des problèmes qui sont là, qui nous hantent depuis des années, qui traînent depuis des années et que Dieu permet qu'ils remontent à la surface. Quelle va être notre façon d'agir par rapport à cela ? Soit on se dit, ça ne serait jamais arrivé si je m'étais pas approché de Dieu. Et on se dit, je vais laisser tomber Dieu. Mais le problème ne va pas être réglé. Et la situation ne va pas s'arranger. Ou alors on dit, Seigneur, si tu le fais remonter à la surface, c'est pour une bonne raison. C'est pour m'aider. C'est pour me pardonner. C'est pour me donner la force d'aller plus loin. C'est pour me dire, Seigneur, je ne veux pas endurcir mon cœur, mais je veux que tu puisses faire quelque chose dans ma vie. Si mon cœur est comme un cœur de pierre, je veux qu'il soit transformé en un cœur de chair par ta puissance. Oui, c'est vrai que quand le Seigneur il met le doigt là où ça fait mal, alors on est mal à l'aise. Quand Dieu nous montre notre péché, est-ce que vous êtes content? Non. On est mal à l'aise, on est dans des attitudes où c'est difficile d'expliquer les choses, où c'est difficile, mais quand on laisse au Seigneur et le Saint-Esprit dans notre cœur le soin de faire ce qu'il faut, alors il est capable d'enlever tout ce qui est là et que notre cœur puisse être purifié. En tout cas, voilà ce qu'il faut réaliser. Si quelque chose remonte à la surface, Seigneur, je veux régler ça pour que ta bénédiction se fasse. Et c'est ce que Néhémie l'a fait dans cette situation. Maintenant, on va lire au chapitre 6 et au verset 1er. On se rend compte que quand l'ennemi n'arrive pas à nous avoir de front avec des attaques fortes, alors il essaye de manière insinueuse de nous faire tomber. Et c'est exactement ce qui se passe dans le chapitre 6. Chapitre 6, verset 1er, « Je n'avais pas encore posé les battants des portes. Lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, il y a eu un grand progrès. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire « Viens !» et ayant ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse « J'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations, et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi, tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sambala « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Amen. » Voyez toutes les stratégies qui sont employées. Il y a des manigances et croyez-moi, l'ennemi, il a des milliers d'années d'expérience pour tenter les gens, pour les tromper, pour les amener à succomber à la tentation, mais on a un Dieu qui est là pour nous protéger. Et on voit un Néhémie qui est fort, qui tient bon, malgré les manigances de l'adversaire, malgré les manœuvres qui sont là, qui sont cachées, alors que Sambala, il est en train de proposer une paix. Ça fait des centaines d'années que dans le pays d'Israël, parce que c'est compliqué, la situation, il n'y a pas la paix. Tous les peuples, les nations environnantes, c'est les ennemis. Et là, Sambala, il propose la paix, enfin. Un traité de paix. Néhémie, c'est aussi un chef d'État. C'est aussi un gouverneur, donc il sait ce que ça représente. Et on lui propose sur un plateau de faire la paix avec tous les ennemis. Ça peut être intéressant quand on parlera après dans le futur de l'histoire de Néhémie, sa biographie. Oui, c'est l'homme qui a réussi à signer le traité de paix. C'est le prix Nobel de la paix. Mais Néhémie, il sait très bien que c'est un peu trop facile. La paix qui est proposée par l'adversaire, c'est pas la bonne paix. Et vous savez, des fois, le diable, il vous dit, je vais te laisser la paix. Je vais faire la paix avec toi. Mais par contre, je te demande ceci ou cela. Et combien c'est dangereux quand on fait la paix avec le diable. Il vaut mieux faire la paix avec Dieu, parce que là, on est sûr que ça va être bon pour nous. Mais quand on fait la paix avec le diable, Oh, c'est pas un culte satanique qu'on fait, attention, c'est pas ça. Mais des fois, il y a des pensées dans nos cœurs qui nous disent, laisse tomber, tu vois ce péché-là, tu vois tout ce qui remonte à la surface. Non, laisse-le, ça, c'est trop pointilleux. Faut pas t'engager dans ces choses-là. Et on se dit, ouais, je vais laisser tomber, je vais rester dans ma situation. C'est ça, faire la paix avec le niam. C'est dire, la parole de Dieu dit ça, mais moi, je vais rester dans la situation parce que je suis plus tranquille comme ça. Mais croyez-moi, si on fait cela, on est en danger. Et Néhémie, il savait que ce n'était pas la peine d'être le prix Nobel de la paix si en même temps il désobéissait au Seigneur. Et puis il savait, il avait le discernement, il savait qu'en fait, derrière, il voulait lui faire du mal. Il voulait peut-être le tuer dans ces endroits-là. Et vous savez, l'ennemi, il est rusé. Il sait que s'il frappe le berger, les brebis se dispersent. Jésus l'a dit pour lui-même au moment qu'il a été trahi. Mais il savait que c'était la même chose à ce moment-là. Si Néhémie avait été tué, l'œuvre se serait totalement arrêtée. Pourtant, ils étaient quand même bien arrivés. Là, ils étaient à 98% de la muraille achevée. Il manquait que les portes. Toute la muraille partout était pleine. Cette fois-ci, il manquait que les portes. C'était pas mal. Il aurait pu se dire, bon, je vais m'accorder un petit peu de temps de repos. Je vais aller parler avec eux et puis réussir tout ça. Mais non. Et vous savez que quand on a de la responsabilité, alors on a plus de chances d'être attaqué par le diable. Quand on est en responsabilité par rapport à notre femme, notre mari, nos enfants, par rapport aux personnes que l'on emploie, quand on a une certaine responsabilité, si l'ennemi il arrive à nous faire tomber, alors il y a toute un malheur qui va s'abattre sur toutes les personnes qui nous entourent. Il y a peut-être on va être un objet de scandale pour toutes les personnes qui nous entourent. C'est pour ça que l'ennemi, il aime bien viser ceux qui sont en responsabilité, parce qu'il sait très bien que ça va avoir des conséquences importantes. Mais si on ne veille pas, on risque de tomber. Mais si on choisit de s'accrocher au Seigneur, si on choisit de ne pas se mettre en danger dans ces situations-là, alors le Seigneur va nous bénir et va nous tenir. Dieu nous appelle à être sages. Dieu nous appelle à voir clair dans le plan de l'ennemi. Vous avez remarqué l'endroit où il lui demande d'aller à l'écart. Il lui a pas dit on va venir à Jérusalem en plein centre, qu'on va être entouré de tout le peuple. Non, viens à l'écart. Viens là où tu vas être tout seul. Et vous savez en plus que la vallée d'Ono, littéralement, c'était choisi pour être un terrain neutre, mais c'était une vallée des artisans. C'est le lieu qui représente à l'époque le summum de l'art. Tous les artisans, ils étaient présents dans cette vallée. Et littéralement, ça veut dire fort. Ça veut dire donc l'endroit où je crois que je suis assez fort pour m'en sortir tout seul. L'ennemi, il aime bien nous emmener dans cet endroit-là. Quand on dit, ouais, je vais pouvoir lui résister. Oui, je vais pouvoir arriver à tenir front par moi-même à l'ennemi. Quand il nous envoie là, c'est parce qu'il sait qu'il va nous détruire. Mais Néhémie, il n'a pas choisi d'aller dans cet endroit. Il est resté ferme. Et ce que j'ai remarqué, hier soir, donc à cette soirée rescapée, il y avait des témoignages, mais il y a deux témoignages particulièrement qui m'ont interpellé. Parce qu'il y a eu la situation qui s'est débloquée. Il y en a un qui était addict de la pornographie. L'autre, il était dans la drogue, l'alcool, et pourtant, il venait quand même à l'église. Et il était un peu dans l'hypocrisie, enfin, peu beaucoup dans l'hypocrisie. Mais la situation pour les deux, pendant des années, restait la même, jusqu'au jour où ils ont choisi de sortir de l'isolement. Quand ils essayaient de s'en sortir tout seuls, ça ne marchait pas. Mais le jour où ils ont accepté de confesser leur péché, pas demander le pardon aux hommes, mais de confesser leur péché à quelqu'un en responsabilité ou aux parents, quand ils ont choisi de dire « voilà ce que j'ai fait, voilà qui je suis vraiment ». Et quand ils ont choisi de pardonner devant leurs frères et leurs sœurs, alors c'est là que la situation a changé. Croyez-moi, l'ennemi, il aime bien nous amener dans l'isolement. Il aime bien qu'on ferme notre bouche quand on est dans l'épreuve, parce qu'on pense qu'on va s'en sortir tout seul. Mais quand on est dans la présence du Seigneur, quand on est dans la communion fraternelle. Bien sûr, on ne va pas parler de ça à n'importe qui, mais on parle à des personnes de confiance. La Bible le dit de manière claire, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et alors, la situation, elle change. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est moi qui viens d'inventer le verset à l'instant? Vous regarderez dans Jacques et vous verrez que c'est bien écrit. Mais c'est tellement important, parce que c'est comme ça que le Seigneur, parfois, il permet que des situations qui durent depuis des années puissent être totalement transformées quand on choisit de de partager cela, quand on choisit de chercher auprès de la communion fraternelle, auprès des frères et des sœurs, du secours. N'arrêtons pas notre travail pour écouter ce que l'ennemi veut nous dire. On voit bien qu'il y a cette tentation qui est là, mais Néhémie choisit de tenir front. Il dit « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. » Est-ce que nous avons un grand ouvrage à exécuter ? Si vous n'en avez pas conscience, c'est que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Parce que nous sommes en train de bâtir l'Église. Bien sûr, on n'est pas... C'est Jésus qui bâtit son Église. Mais à un moment donné, la parole de Dieu nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et Jésus, c'est le fondement. Mais nous sommes des pierres vivantes. Alors nous sommes en train de bâtir cet ouvrage, l'Église. Et le Seigneur nous appelle à ne pas nous détourner de ce que... On doit faire de manière précise, mais à avancer sur ce chemin-là. Ne perdons pas notre temps avec celui qui veut nous détruire. Parfois, il vient, il nous dit toutes sortes de paroles dans notre esprit, et ça aurait tendance à nous décourager, ça aurait tendance à nous apeurer. Mais dans ces moments-là, tournons nos yeux vers le Seigneur et écoutons ce que lui veut nous dire. Et vous allez voir que ça va nous faire du bien. S'il se présente 4 fois, comme ça a été le cas pour Néhémie, alors 4 fois, disons-lui non. Si la 5e fois, il met une pression plus grande, disons-lui non quand même, la 5e fois c'est ce qui se passe. Après ces manigances-là, il y a la médisance. Vous savez qu'une des armes les plus terribles sur cette terre, c'est la médisance, les mauvaises paroles. Et c'est pas le diable qui vient murmurer à notre oreille, la médisance. C'est que le diable va se servir de personnes autour de nous qui disent des mauvaises paroles. Et voilà ce qui s'est passé là, on l'a lu tout à l'heure. Il s'emballa, vient en lui disant, il y a une lettre, son serviteur, il tient la main, le bruit se répand parmi les nations. Rien que ça. Le bruit se répand parmi les nations. Est-ce que le bruit se répand tout seul ? Vous voyez la formulation ? Et c'est souvent ce qui se passe quand il y a de la médisance. On ne sait pas qui. Souvent, c'est on qui parle. On dit que. Et combien c'est dangereux quand on fait partie soi-même de ce on-là. Le Seigneur nous appelle à parler avec vérité à notre prochain. Le Seigneur nous appelle à être de ceux qui, quand il parle, quand il communique quelque chose, à ne pas être des ouvriers du diable, parce que quand on choisit de colporter des bruits, quand on entend quelque chose sur un frère ou sur une sœur, et qu'au lieu d'aller le voir et de lui demander si c'est la réalité, on le colporte à un autre frère qui n'est pas concerné par l'affaire, on est exactement dans cet aspect de médisance. Même si la chose est vraie, la Bible nous appelle. Si on voit que notre frère il a péché, si on a quelque chose à lui reprocher, à aller le voir et à se réconcilier avec lui. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et en plus, ce qui me plaît un petit peu particulièrement dans cette affaire, c'est que le bruit se répand parmi les nations et Gachmou affirme que toi et les Juifs. Gachmou, vous savez qui c'est ? Geshem, c'était un ennemi. Et je ne sais pas de quelle manière ça a du crédit que l'ennemi, il dit que c'est vrai, la médisance. Je trouve que ça ne sert à rien. Et au contraire, s'il faut se poser la question, qui c'est qui est en train de me parler de cette affaire-là ? Est-ce que c'est une personne de confiance ? Ou est-ce que c'est un ennemi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dans le but de détruire ? Si c'est le cas, alors ce qui me dit, je ne veux même pas l'écouter. Comprenez ? Il faut être clairvoyant par rapport aux stratégies de l'adversaire. À un moment donné, Jésus, il a dit à Pierre, pourtant Pierre, c'est pas n'importe qui, celui qui a marché sur l'eau, celui qui allait devenir un des apôtres et qui a fondé l'Église dans les premiers siècles. Il lui a dit pourtant, arrière de moi Satan. Jésus, il avait la clairvoyance de voir que le diable, à un moment donné, s'était servi de Pierre parce qu'il avait réagi charnellement. Cela ne t'arrivera pas. Là, il parlait de la mort à la croix et tout ça. Non, ça ne t'arrivera jamais, tu n'iras jamais à la croix. Mais heureusement que le Seigneur ne l'a pas écouté. Hein. Vous êtes d'accord ? On est reconnaissant. Mais en plus, il y a cette parole, arrière de moi Satan. Et on a besoin dans nos vies, parfois, de dire, pas de le dire aux gens. Je crois qu'il n'y a que Jésus qui peut s'adresser comme ça à des personnes. Mais on a besoin, nous, de dire au diable, arrière de moi Satan. Cette pensée qui est fausse, arrière de moi. Cette pensée négative sur ma propre vie, ou sur mon frère, ou sur ma sœur. Arrière de moi, je veux rejeter tout cela et je veux dire non, ce que tu dis n'est pas vrai et je veux marcher sur le chemin de la vérité. Et vous avez vu la menace qui est présente. Maintenant, ces choses vont arriver à la connaissance du roi L'ennemi, il aime bien nous amener dans ce chemin de peur, ou même par la médisance, essayer de nous détruire, mais on voit un Néhémie qui tient bon, un Néhémie qui a la bonne façon de réagir. Alors qu'on lui propose, qu'on lui dit que, comme quoi il voudrait devenir roi, on lui dit que l'objectif de tout ce qu'il est en train de faire, en fait, c'est pas pour Dieu, mais c'est pour lui-même. Et dans ces moments-là, c'est bon de se souvenir comment on est arrivé. Et je suis sûr que Néhémie, quand il a lu cette lettre, il a dit « Non, mais moi je sais comment je suis arrivé là. J'étais dans un temps de prière. J'ai cherché la direction de Dieu et le Seigneur m'a ouvert une porte. Et c'est pas pour ma propre gloire que je suis là. C'est pour aussi obéir au Seigneur. C'est pour aussi marcher dans ce que le Seigneur a tracé devant moi. C'est bien dans ces moments de voir les expériences, de voir comment le roi il a écrit des lettres. Je suis pas venu faire une révolte contre le roi parce que le roi m'a donné des lettres. Et c'est bien de se rappeler comment on est arrivé à la situation où on en est et de permettre que toutes ces paroles mensongères et médisantes puissent s'éteindre dans notre esprit. Et ce que je vous encourage à faire quand une parole comme ça vous oppresse et tourne dans votre esprit, c'est de vous arrêter, de poser les bonnes questions. Est-ce que ce qui me préoccupe, c'est la vérité? Pourquoi est-ce que je fais cela? Pourquoi est-ce que je fais telle action dans ma vie? Est-ce que c'est par orgueil? Ça peut être l'occasion de sonder notre cœur, hein. Peut-être que c'est vrai que c'est par orgueil. Mais ou alors c'est vraiment l'ennemi qui veut nous pousser dans le sens, et c'est vraiment par obéissance qu'on agit. Et puis surtout de dire « Arrière de moi Satan, ce que tu dis là est faux ». C'est bien de prendre opposition. La Bible nous dit « Résister au diable ». Comment on résiste au diable? C'est pas en gardant les bras croisés, mais c'est quand il y a ces pensées mauvaises, quand quelqu'un vient nous dire une parole médisante et qu'on dit « Non, je refuse de propager cette parole. Je refuse de faire partie du « on » qui répand le bruit. Je veux obéir à la parole du Seigneur. » Et tout de suite, on voit un Néhémie qui termine en disant « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi dans ces moments où on est tourmenté, dans ces moments où on est dans la difficulté par rapport à tout ce que l'on entend. Ça peut nous ébranler, mais Néhémie, c'est un homme de prière qui dit « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » On va terminer avec cette dernière portion. Dans le verset 10, regardez cette partie où on voit que c'est l'ennemi qui utilise le compromis, un cœur mélangé, afin de tenter son serviteur, le serviteur du Seigneur plutôt, Néhémie. Et il est dit ceci, « Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaïa, fils de Mehetabéel. » Il s'était enfermé et il dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis « Un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sambala et de leurs œuvres. » On voit toujours ce Néhémie qui a ce cœur qui se tourne vers le Seigneur quand il est dans la difficulté. Mais on voit que là, il y a des manœuvres après la médisance, après les stratégies pour l'isoler, pour le mettre à l'écart. Il y a des manœuvres qui sont là pour l'amener dans un compromis. Il sait, l'ennemi sait que nous aimons le Seigneur. L'ennemi sait que nous, il y a certaines choses que l'on fera jamais parce qu'on aime le Seigneur. Mais l'ennemi sait aussi que s'ils arrivent à nous faire perdre l'assurance devant Dieu par un péché, alors c'est plus facilement qu'il va nous détruire. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire qui lui donnent accès. Et combien c'est important d'être de ceux qui ont ce discernement. Néhémie va voir ce prophète, avec ce nom compliqué que je ne vais pas relire, et ce prophète qui lui dit, ils veulent te tuer. Alors ce qu'il lui propose le prophète, voilà ce que... Et on sent vraiment que c'est un peu de cette manière qu'il le présente. Voilà ce que Dieu m'a demandé de te dire. Il faut que tu ailles dans le temple te réfugier. Comment savoir si une prophétie vient de Dieu? Et je crois que dans ce passage, on a tous les points pour le savoir. Ou comment savoir si une prophétie ne vient pas de Dieu? C'est très simple. D'abord, une prophétie, c'est fait pour encourager. Et quand vous considérez le contre-exemple que l'on voit dans ce passage, c'est l'inverse qui se passe. Cet homme qui est prophète, soi-disant de l'Éternel, il est en train de le mettre sous la peur. Il est en train de lui dire « Attention, ils vont te tuer, attention !» Et c'est vrai que parfois, le Seigneur, il nous parle avec une certaine force, en nous mettant en garde, en nous avertissant, mais c'est toujours dans un bon sens, toujours pour nous encourager. Et quand on est dans la peur, l'ennemi sait très bien qu'on prend de mauvaises décisions. C'est ce qu'on a partagé récemment. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, quelqu'un qui était en visite dans une église, et qui, en voyant une personne, elle a dit, voilà, Dieu m'a montré que cette personne, elle a comme une ombre, un squelette au-dessus de sa tête. C'était ça sa parole de prophétie. J'ai dit, disons, c'est pas très encourageant, hein. Je pense pas que je vais aller dire ça à la personne, parce que ça va pas beaucoup l'édifier. Des fois, on a des personnes qui ont des prophéties, mais qui encouragent pas. Qui rabaissent plutôt. Alors ça, laissez-moi vous dire que ça vient pas du Seigneur. Quand une prophétie vient de Dieu, ça encourage, ça exhorte. Même si ça reprend en question, ça exhorte quand même. Là, une prophétie qui vient de Dieu, elle est conforme à la parole de Dieu. En tant que gouverneur, Néhémie, il avait beaucoup de droits et de pouvoirs. Mais la loi, la Torah lui interdisait d'aller dans certains endroits du temple. Et là, c'est exactement ce que lui propose le prophète. Viens dans le temple, tu es menacé de mort, viens dans le temple, tu seras en sécurité. C'est-à-dire, pour pouvoir protéger ta vie, désobéis à la parole du Seigneur. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment protéger sa vie s'il met ça en place? Et l'ennemi, il est malin, mais des fois, il nous dit ça. Tu vois, fais passer ton intérêt en premier, viens te mettre en sécurité. Ouais, il faut mentir un petit peu, ouais, il faut aller un peu contre la loi, mais bon, c'est pas grave, après tu seras tranquille. Mais quand on se place dans cette position, on est peut-être tranquille de manière temporaire au point de vue des hommes, mais au point de vue de Dieu, on est en danger terrible. Parce qu'on se replace soi-même sous la condamnation du péché. Et Néhémie, il a tenu bon. Néhémie, lui, il voulait se conformer à la parole de Dieu. Il a dit, mais quel homme tel que moi pour entrer dans le temple? J'en ai pas le droit. Et je veux pas prendre ce droit, même si ma vie est en danger. Je veux obéir à mon Seigneur. Une parole qui vient du Seigneur, elle est désintéressée. Ce prophète avait un intérêt financier. Il s'était fait payer de l'argent pour dire la chose. Et j'ai vu parfois des personnes qui apportaient des prophéties, mais qu'ils faisaient, on savait très bien quand on connaissait la situation, elles apportaient la prophétie pour une autre personne à qui elles voulaient régler les comptes. Et ça marche pas, hein. Ça, c'est pas désintéressé. Et si jamais vous avez une prophétie qui vous vient et vous savez de manière précise que c'est pour une personne dans l'église, alors il vaut mieux aller voir la personne en tête à tête et lui dire. Quand le Seigneur met une parole sur notre corps et qu'on ne sait pas à qui ça s'adresse, là on le donne à l'église. Mais quand c'est pour une personne précise, ou quand il s'agit de reprendre son frère qui a péché, alors on n'utilise pas la prophétie, on va le voir. Et on le fait de manière avec beaucoup de douceur, hein. La Bible nous dit de reprendre avec douceur. Une parole qui vient de Dieu, elle est pleine d'amour. Même si c'est difficile, l'objectif, il est positif. Et là encore, c'est pas ce qui se passe. Le but de ce prophète, c'était de ruiner la réputation de Néhémie, de le faire tomber dans le compromis. Oui, c'est un homme intègre, oui, c'est un homme droit, mais si on arrive à le faire entrer dans le temple, alors on va montrer à tout le monde que finalement, il n'est pas si intègre que ça. Et on va arrêter toute l'œuvre. Mais le Seigneur nous appelle à être de ceux qui ne se souillent pas. Il y a à un moment donné, Daniel, il a dit qu'il refusa, il résolut même de ne pas se souiller à la table du roi. Vous connaissez l'histoire. Il résolut de ne pas se souiller. Je voudrais terminer avec l'exemple de cette jeune fille. Elle s'appelle Moria Peters. Elle a été dans American Idols. Donc c'était un concours de chant comme on a un petit peu en France aussi. Et c'était une chanteuse qui avait la foi chrétienne engagée, qui vraiment avait donné sa vie au Seigneur et qui avait pris certaines résolutions dans sa vie. Elle s'était fait une fierté de dire... Je n'ai jamais embrassé un garçon et le premier garçon que j'embrasserai, le premier baiser que je ferai, ça sera seulement pour mon mari. Elle avait résolu ça dans son cœur. Et donc c'était une personne qui avait une jolie voix, elle a passé les différentes auditions pour aller à cette émission-là. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée face au jury et toutes les portes se sont ouvertes, mais il y a eu ce jour-là où face au jury, il y a eu ces paroles qui ont été dites. Tout le jury a dit « tu es super ». Tu es photogénique, tu passes bien à la télé, tu as une belle voix, tu as une chouette personnalité. Mais tu corresponds pas aux critères des jeunes filles d'aujourd'hui. Alors on te conseille d'aller voir des garçons dans le monde, de les embrasser et même plus. Voilà ce qu'on te conseille. Et puis après, tu reviendras et on te prendra. Ça, c'était le conseil très intelligent des jurys. Et cette jeune fille, Elle avait vu toutes les portes s'ouvrir et puis là, d'un coup, elle voit la porte se refermer en grand. Elle était à un moment donné face à cette tentation de compromis. Est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas? Mais elle a choisi de dire non, moi je me suis résolu à ne pas me souiller. Alors je ne vais pas me souiller. Et donc elle a quitté l'émission. Mais ce qui s'est passé, ce qui a été incroyable, c'est que dans les coulisses, à la fin de cette émission-là, dans les coulisses, il y a un producteur qui est venu, qui avait les larmes dans les yeux et qui a dit « Jeune fille, vous êtes un modèle pour toutes les Américaines et tous les jeunes Américains qui vous ont regardé, vous avez donné un excellent modèle. Alors moi, je suis prêt à financer votre CD, moi je suis prêt à vous accompagner et moi je suis prêt à vous aider pour que votre carrière continue. » Et ce qui s'est passé, c'est que elle a continué sa carrière, mais pas au travers de cette émission, au travers de ce producteur-là. Et ce producteur, il a dit « Moi, j'ai une jeune fille, j'ai une fille qui a 15 ans et ce que j'ai envie, c'est qu'elle ait un modèle comme vous à regarder. J'ai pas envie qu'elle aille embrasser des garçons dans le monde. » Et donc Dieu a ouvert les portes et Dieu a permis qu'elle fasse tous ses CD. Le message, il est clair. Et par la suite, à la suite de cette émission, elle a eu plein de coups de fil d'adolescentes qui lui ont dit « Mais comment aujourd'hui on peut vivre dans une vie de pureté dans la société dans laquelle on vit ?» Et elle leur a donné des conseils, elle leur a témoigné du Seigneur. Et par la suite, donc, elle a rencontré un jeune homme avec qui elle s'est mariée. Et le jour de son mariage, elle a mis même un chewing-gum dans sa bouche. Elle a dit « Je veux que le premier baiser avec mon mari, ça soit le meilleur moment. » Et donc, elle a choisi d'embrasser son mari seulement le jour du mariage. Et elle s'est mariée. Et maintenant, ils servent le Seigneur dans les États-Unis. Et leur vie tout entière est un modèle pour tous ceux qui le regardent. Tout ça parce qu'à un moment donné, une jeune fille, face à une pression du monde, face à des tentations de l'adversaire qui était là, elle a choisi de tenir bon. Elle a choisi de ne pas se souiller. Et je crois que c'est un excellent exemple pour chacun d'entre nous ce matin. Que nous puissions être de ceux qui disent « Seigneur, je ne veux pas me souiller. Je ne veux pas marcher dans le compromis. Je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit. Pas un fil qui appartienne à l'adversaire dans ma vie. Mais que toute ma vie glorifie le nom du Seigneur. » Amen.